Bonjour, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne, les choses de la vie, en direct ou en podcast sur l'appli France Inter. Bonjour Sabrina Nadjar.
Bonjour Ali.
Rédactrice en chef à Femme Actuelle. On vous retrouve en toute fin d'émission pour évoquer les facteurs à tout faire.
Oui, parce que les facteurs aujourd'hui ne se contentent plus uniquement d'apporter le courrier, ils remplissent désormais de nouvelles missions.
A tout à l'heure Sabrina. Et ce matin, on se demande ce qu'est une société liquide. Une société où par exemple, ni le travail, ni l'amour, ni l'amitié ne sont plus des structures solides. On doit cette idée de société liquide à l'un des plus grands sociologues du XXe siècle, Zygmunt Bauman, qui vient de mourir le 9 janvier dernier, à l'âge de 91 ans. Vous verrez ce matin que ce sociologue anglo-polonais a été un visionnaire. C'est l'un des premiers à avoir analysé la grande précarité de nos liens intimes et sociaux, l'expansion des modèles de consommation à tous les aspects et toutes les activités de la vie. Nos invités nous diront de façon très concrète pourquoi certaines idées de Zygmunt Bauman permettent de comprendre le désarroi qui nous frappe, source inépuisable d'angoisse et d'insécurité individuelle. Nous verrons également comment mieux vivre dans une société liquide où tout se jette, objet, travail, amis, amour. N'hésitez pas à poser vos questions, à témoigner au 01 45 24 7000 par mail, grandbienvousfasse@radiofrance.com et sur notre page Facebook.
France Inter, Grand Bien vous fasse, Ali Rebbi.
Et voilà le point essentiel. La caractéristique prédominante de la modernité liquide, c'est justement la crise de la notion du long terme. Je crois que la hiérarchie des valeurs qui plaçait en tête durée et tradition a été inversée. Aujourd'hui, le temporaire trône au sommet de la hiérarchie des valeurs, tandis que les idées de solidité, de durabilité et de long terme présentent des aspects menaçants.
La voix du sociologue Zygmunt Bauman sur France Culture en 2005 dans l'émission Cause Commune. Bonjour Yves Michaud.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Ça va.
Vous êtes, ça a l'air, vous êtes philosophe, spécialiste de philosophie politique et d'esthétique. Dernier ouvrage paru chez Kairos, Citoyenneté et Loyauté. Vous êtes l'un des tout premiers en France à avoir compris l'importance de la sociologie de Zygmunt Bauman, né en 1925 et mort le 9 janvier dernier à Leeds, au Royaume-Uni. Vous avez édité plusieurs de ses ouvrages aux éditions du Rouergue. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots qui était Zygmunt Bauman pour ceux qui n'en auraient jamais entendu parler?
Alors, c'est typiquement un intellectuel dans l'ancienne tradition d'Europe centrale. Moi, je voudrais bien l'associer à des gens comme Erich Hobsbawm, Ernest Jellner ou Albert Hirschman, c'est-à-dire des gens extrêmement cultivés, ouverts, connaissant plusieurs langues. Hein. Il avait donné, quand je l'avais invité en 2000 à l'Université de tous les savoirs, le 7 mai, il avait donné sa conférence en français. Dire, c'était comme Hobsbawm d'ailleurs. Donc il était extrêmement ouvert. Il avait commencé dans un pays en étant communiste. Bon, tout de même, c'était difficile de faire autrement, y compris avec des engagements qui étaient peut-être un petit peu excessifs. Et puis, il a eu des problèmes. Il y a eu des problèmes, disons, quand son père a voulu partir en Israël. Lui-même n'était pas du tout sioniste. Il était même très violemment anti-sioniste. Et à ce moment-là, il a fait partie, je dirais, des intellectuels polonais d'origine juive qui étaient marginalisés. Et il est parti en Angleterre. Il a été déchu de sa nationalité parce que la condition pour émigrer, c'était d'abandonner la nationalité polonaise. Mais il est parti de son plein gré en Angleterre où il avait déjà été autorisé à aller. Donc c'était un polymathe, quelqu'un qui connaissait toutes les littératures sociologiques, je dirais de langue française, anglaise, allemande, polonaise bien sûr. Et c'est un travail de longue haleine. À la fin de sa vie, à partir des années 2000, il a toujours beaucoup publié, mais son rythme de publication s'est accéléré. Bon, je suppose que c'était parce qu'il avait du succès. Et puis c'était un homme qui parlait avec beaucoup de volubilité. Hein. Et donc, il a commencé à... Disons que pour être plus net. Au départ, sa réflexion dans le cadre marxiste, c'est une réflexion sur les classes sociales. Comme pour beaucoup d'intellectuels marxistes, le problème, c'est la dissolution des classes sociales. C'est le thème un peu de Lukács dans Classe et conscience de classe. Il y a des classes, mais elles n'ont plus conscience d'être des classes. Et puis, ça l'a amené ensuite à l'étude de la dissolution des positions de classe et l'étude de la postmodernité. Moi, je me suis intéressé à lui au moment où je m'intéressais à la postmodernité, c'est-à-dire beaucoup, c'est-à-dire au début des années 90.
C'est quoi la postmodernité?
Justement, c'est la raison pour laquelle c'est ce qui vient après le modernisme.
Lui-même disait, excusez-moi Yves,
Martin Legros,
c'est la modernité sans les illusions de la modernité.
Voilà. Oui, simplement, moi je m'intéressais au postmoderne parce qu'en fait on n'a jamais trop su ce que c'était, de même qu'on ne sait pas trop ce que c'est que le moderne, hein, en quelque sorte. Et donc j'ai trouvé que sa pensée était très intéressante parce que justement elle nous sortait un petit peu de ce bourbier des discours sur la postmodernité.
Bonjour Simon Tabé.
Bonjour.
Vous êtes sociologue à Nanterre et vous avez consacré un livre au projet sociologique de Zygmunt Bauman chez l'Harmattan. Alors pouvez-vous nous expliquer de façon très pédagogique ce qu'est le concept de société liquide ? Alors, Bauman analyse l'effritement des grandes structures qui apportaient une forme de sécurité, un effritement qui laisse place à une liberté dérégulée où les individus doivent se reconstruire eux-mêmes.
C'est ça, tout un programme. La société liquide, elle se concrétise. Enfin, dans sa pensée, il l'oppose à la société solide, évidemment, qui structurait les individus à travers les grandes structures qui étaient l'armée, les usines, et donc à un mode de production aussi du social. Et pour lui, la société liquide se définit par la consommation, et on comprend que consommer, c'est un acte plus individuel, hein, donc individualiste, et que du coup, ça donne un mode d'intégration sociale qui est totalement différent. C'est-à-dire que avant, une société qui intégrait ses membres et qui les disqualifiait pour un moment, pour s'ils ne pouvaient pas travailler, et qui ensuite les réintégrait. Aujourd'hui, le système est totalement différent. Il y a les gens qui sont dans le système, qui peuvent consommer, et les autres qui en sont exclus. Et voilà un peu l'idée de la société liquide, c'est que la société liquide est un modèle d'exclusion et non pas d'intégration.
Bonjour Martin Legros.
Bonjour.
Vous êtes agrégé de philosophie, journaliste à Philosophie Magazine. Alors pensez-vous que la métaphore de la liquidité traduit bien les liens faibles qui unissent une société de consommateurs ?
Oui, je voudrais juste d'abord ajouter une petite chose au portrait parfait que Yves Michaud a fait de Zygmunt Bauman. Juste ce qui a fait que Zygmunt Bauman ça est plus qu'un grand sociologue qui intéresse l'académie. Pourquoi est-ce qu'il intéresse un public élargi ? Je crois que, et ça tient à cette idée de liquidité. Il a d'abord la forme de ses textes. J'invite vraiment les auditeurs à aller découvrir ses textes parce que c'était quelqu'un qui à 80 ans était capable d'aller d'utiliser aussi bien Internet, Twitter, qu'une publicité, qu'une émission de radio.
La télé-réalité aussi.
Il avait une sorte d'écoute de son temps très très forte et il écoutait cela avec, en effet, dans l'esprit, les grandes références de la sociologie, de Marx jusque Gramsci, jusque tous les sociologues importants, Bourdieu aussi qui a compté pour lui, mais il avait cette curiosité qui faisait qu'il était une éponge qui parvenait à attraper le temps. Et il mélangeait des références philosophiques avec cette curiosité, mais aussi la littérature. Il parle beaucoup de récits littéraires pour essayer de comprendre ce qui est en train de nous arriver avec cette idée de liquidité. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que il me semble que ce concept de liquidité qu'il a égrené, il y a la société liquide, il y a l'amour liquide, toutes nos vies deviennent liquides. Et je trouve que ce qui est intéressant chez Bauman, c'est que à un moment donné, il a abandonné en effet le marxisme, c'est-à-dire l'idée qu'il y avait une bonne société, qu'il y avait une solution à tous nos problèmes, et il a trouvé ce concept qui n'est pas du tout une solution, mais qui est un nom à notre situation. Et peut-être qu'il est le plus philosophe à ce moment-là, c'est-à-dire au moment où il abandonne ses illusions, et il donne un nom à notre trouble, qui est en effet cette situation non seulement d'une société d'exclus, vous l'avez dit, mais une société où intérieurement nous sommes divisés, clivés entre notre aspiration à une forme de sécurité et notre aspiration aussi à jouir des formes précaires et de toutes les libertés que nous offre la société contemporaine.
Et à propos de société liquide, Zygmunt Bauman écrivait « Cette vie frénétique, incertaine, précaire, rend l'individu incapable de tirer un enseignement durable de ses propres expériences parce que le cadre et les conditions dans lesquelles elles se sont déroulées changent sans cesse. » Bonjour Christophe André.
Bonjour Aline.
Je rappelle que vous êtes psychiatre et que l'on vous retrouve tous les mardis matins dans votre chronique Chose Vue. Vous n'êtes hélas pas en studio avec nous, mais en vadrouille dans les Alpes avec vos amis amis, le moine bouddhiste Mathieu Ricard et le philosophe Alexandre Jolien, que nous recevrons bientôt. De façon intuitive et de votre point de vue de psychiatre, que vous inspire cette idée de société liquide, de vie liquide ?
C'est une idée passionnante, c'est un modèle de compréhension et de lecture des transformations que vivent nos patients, puisque nous, vous savez, nous sommes en bout de chaîne, hein, les psychiatres, les thérapeutes, on reçoit des personnes qui, dont un certain nombre de symptômes sont des signes de souffrance de leur insertion ou difficulté d'insertion dans la société. Donc, de notre poste d'observation, même si on manque de recul, on voit très bien qu'il y a eu une bascule des anciens modèles sociaux qui étaient des modèles souvent contraignants pour les individus, qui l'individu était prisonnier de sa famille, de son environnement social, de son microcosme social, de sa classe sociale, et ça engendrait un certain type de troubles, les névroses traditionnelles décrites par la psychanalyse. Et aujourd'hui, on voit apparaître des formes de souffrance ou de pathologies différentes, avec des pathologies notamment de l'estime de soi. Vous savez, l'apparition de ces pathologies et du concept même d'estime de soi, qui a pris beaucoup d'importance dans les années 60, est quasiment contemporain de ce que Zygmunt Bauman appelle la société liquide. C'est-à-dire, on voit finalement que dans cette société où les liens ne sont plus sécurisants, les individus ont intérêt à développer un certain sentiment de force, de cohérence intérieure, mais ce qu'on voit aussi, c'est que c'est un piège pour ces mêmes individus, parce que s'ils construisent leur estime d'eux-mêmes sur les diktats ou les injonctions de cette société, être fort, être soi-même solide, plus la société est liquide, plus nous devons être solides pour ne pas être désintégrés, pour ne pas être annihilés, c'est aussi une impasse. Et c'est les erreurs qu'on a faites au début du travail thérapeutique sur l'estime de soi. Les thérapeutes ont bien senti qu'il fallait aider les personnes à faire face à ces pollutions, ces messages sociaux polluants, toxiques, du consumérisme, du matérialisme. Donc au début, on travaillait trop sur la valorisation des individus, avoir confiance en soi, etc., etc. Et puis on s'est aperçu qu'en fait, on ne faisait qu'avaler les polluants, qu'intérioriser les injonctions de cette société qui encourage à être centré sur soi, à être fort, à être performant. Et là, depuis, c'est très intéressant parce que depuis une dizaine d'années, on a compris que le bon rapport à soi, la bonne estime de soi dans ce monde liquide de Bauman, donc, c'est aussi très important de construire un rapport à soi basé sur l'auto-bienveillance, c'est-à-dire ne pas gober toutes ces injonctions de performance, et aussi sur le lien social, ne pas croire que nous sommes totalement indépendants et totalement capables d'écrire notre destin. Donc vous voyez, on est très interrogé par ce concept de société liquide.
Merci beaucoup Christophe André, bonne balade dans les Alpes. On vous retrouve mardi prochain. Nous attendons vos questions sur la société, la vie liquide, la grande précarité de nos liens sociaux et intimes au 01 45 24 7000 par courriel grand bien vous fasse à radiofrance.com. Une émission préparée par Alexia Rivière et Claire Destacan avec l'aide de Théo Denmat, et c'est réalisé par Jérôme Boulet.
France Inter, grand bien vous fasse, Ali Rebi. You to tell me it's time. I've been keeping my head well trained, watching truth come grain by grain. Just the ones I wanna hear that something is mine. Oh, tell me it's time. Tell me it's my own double. Looking back, saying might be trouble. Can't say that I haven't been trying. You put me on the midnight train. Every car's a running through my brain. Just the ones I wanna hear that something is mine. Oh, tell me it's time.
Nick Waterhouse, It's Time.
France Inter. Grand bien vous fasse.
10h22 et ce matin on se demande ce qu'est une société liquide marquée par la grande précarité des liens sociaux et intimes avec les philosophes Yves Michaud et Martin Legros et avec le sociologue Simon Tabé. Alors je rappelle à ceux qui nous rejoignent que l'idée de société liquide, de vie liquide a été forgée par le grand sociologue Zygmunt Bauman qui vient de disparaître le 9 janvier dernier à l'âge de 91 ans. Yves Michaud, c'est une évidence, mais une société liquide c'est l'inverse d'une société solide. Une société solide, rassurante est le contraire d'une société liquide. Liquide nettement plus insécurisante.
Alors, il a commencé par opposer effectivement, d'abord parler de sociétés solides, et ensuite il a vu que ces sociétés solides, justement, préconisaient surtout l'engagement des sujets et leur construisaient une identité, se délitaient. Alors, il a commencé par beaucoup parler du thème de l'étranger, c'est-à-dire celui qui, dans une société solide, n'entre pas vraiment dans les cadres, que ce soit le SDF, que ce soit le migrant, que ce soit éventuellement aussi le touriste. Hein. J'ai commencé à m'intéresser à son travail à cause du tourisme, parce qu'il était un de ceux qui parlait le mieux de l'homme contemporain en déplacement, pour toujours aller voir de l'étrangeté et être en situation de semi-étrangeté. Et puis ensuite, il a vu que, l'effet postmoderne, l'effet de liquidification se généralisait, et à ce moment-là, il a concentré sur la notion de société liquide. Alors, dans une société liquide, il n'est pas le seul, hein, il y a aussi toute l'idée de la flexibilité, on est dans des sociétés flexibilité où il n'y a pas de, où on a plus de fin, où on est très incertain sur les fins, mais en revanche, on dispose d'énormément de moyens. Donc, nous avons à notre disposition beaucoup de moyens, mais sans savoir au fond pourquoi. On est résolu, mais on ne sait pas trop à quoi on est résolu. Et donc, tous les modèles, soit de consommation, soit de construction identitaire fictive et hystérique, c'est de ça dont il avait parlé à l'Université de Tous les Savoirs en 2000, toutes ces aventures de l'identité, de tentatives de reconstruction de l'identité sont possibles. Les meilleures comme les pires, celles qui sont strictement commerciales, hein, faites du bodybuilding, avaler des drogues, allez-vous faire de la sagesse avec Christophe André et Mathieu Ricard, etc. Et puis, vous pouvez aussi vous crisper sur les identités, et ça, il était extrêmement sensible aussi à ça.
Alors, j'aimerais citer Robert Maggiori dans Libération, qui nous dit que la notion de société liquide est aujourd'hui tombée dans le langage courant, en tout cas dans le langage médiatique, sans doute parce qu'elle est vraiment pertinente et permet d'indiquer en un seul mot les caractéristiques des sociétés contemporaines. Simon Tabé.
Ouais, en fait, pour vraiment aborder le concept de société liquide, il faut revenir à son grand travail sur l'Holocauste et sur, parce qu'il a écrit un livre très important, Modernité et Holocauste, qui est en fait la manière dont le pouvoir centralisé de l'État moderne finalement se arrive à son paroxysme dans un projet ultra moderne de rigide évidemment et d'extermination en masse pour instaurer un ordre. Donc il travaille beaucoup par métaphore. On a insisté sur le fait que c'était quelqu'un qui écrivait de manière très qui était très très, très lisible, clair. Et il travaille par métaphore. Il disait que la société solide se caractérise par une sorte d'état jardinier ou un jardin à la française où on est là pour créer de l'ordre et arracher les mauvaises herbes. Son image. Et qu'aujourd'hui, on serait dans un état, disons, garde-chasse, où il y a une sorte de forêt vierge dans laquelle les règles les règles du marché économique sont un peu laissées à elles-mêmes et l'État est simplement laissé à son rôle d'arbitre. Donc je crois que c'est comme ça qu'on peut voir les choses.
Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret de société liquide?
La société dans laquelle on vit, je crois que...
Un exemple concret au sein de cette société liquide, Yves Michaud.
Un exemple, c'est... moi, je vois avec mes enfants et petits-enfants qui fixent, en fait, leur projet de rendez-vous et de rencontre sociale en fonction de la disponibilité de leurs amis au téléphone. On le voit tout le temps dans le métro. Les gens sont là, ils consultent leur téléphone, ils envoient des SMS pour voir avec qui ils pourraient se joindre ce soir pour faire quoi. Ça, c'est typiquement la flexibilité des rapports sociaux aujourd'hui. Laisser le maximum d'ouverture au projet et en même temps, au fond, ne plus savoir qui on va voir, ne plus avoir de projet.
Un autre exemple de cette société liquide, c'est l'apparition de la télé-réalité. Vous le mentionnez tout à l'heure, depuis les années 2000 sous le nom de Big Brother, mais qui a toutes les déclinaisons possibles, où on voit des groupes de gens filmés 24h sur 24, qui montent des alliances, qui ensuite,
pour s'éliminer
ensuite. Et ça, c'est finalement une sorte de métaphore du jeu économique, social, amoureux, intime, tout ce qu'on veut qui existe aujourd'hui.
Et Zygmunt Bauman nous dit que la vie dans la société moderne liquide est une version sinistre du jeu des chaises musicales disputé pour de vrai. Le véritable enjeu consiste à être sauvé de la relégation et à éviter d'être jeté aux ordures. Martin Legros.
Oui, cette dimension de compétition entre les individus est très très forte et indéniable. Mais je crois qu'il faut insister sur la dimension ambivalente de la liquidité. La liquidité, c'est pas uniquement le fait que nous soyons des loups l'un pour les autres, que nous soyons en compétition perpétuelle dans une précarité généralisée. C'est aussi la découverte que les relations humaines ont quelque chose de fragile et que cette fragilité est précieuse. Et par exemple, son texte sur l'amour liquide, à plusieurs moments, il s'inspire de ce qu'avait écrit Giddens sur la transformation des relations sentimentales et amoureuses. Et Giddens disait, on touche peut-être à la relation pure. Et il reprend ce concept pour dire la liquidité, c'est ce moment, il dit, être en couple signifie consentir à un futur indéterminé. Et quand il dit ça, il dit en effet dans la modernité, dans la postmodernité, il y a plus de mariage qui encadre les liens amoureux dans des relations stables. Mais il y a aussi cette expérience. Du coup, nous touchons peut-être à quelque chose qui est l'essence même de l'amour, cette fragilité amoureuse, cet amour qui ne vit que de l'engagement des individus. Il me semble que là, il touche à quelque chose de très précieux. Mais je trouve que ce qui est fécond, c'est qu'il tient les deux bouts de la chaîne, la fragilité qui nous met dans une situation de désarroi et d'inquiétude, mais aussi le fait que nous touchons par là à quelque chose qui l'essence peut-être de la relation sociale.
Yves Michaud. Ce que dit Legros est très juste et c'est une dimension qui est chez lui qui est lévinassienne, hein, en fait. Il était très inspiré de Lévinas. C'est-à-dire qu'en fait, dans cette flexibilité généralisée et liquidité généralisée, il y a la possibilité de la rencontre de l'autre. C'est la même ambivalence qu'il avait vis-à-vis de l'étranger, que nous avons vis-à-vis de l'étranger. L'étranger, c'est celui qui doit être accueilli et qui doit être accueilli avec la plus extrême générosité et, je dirais, avec l'aventure aussi de l'accueil, mais en même temps, c'est le dangereux, c'est le vagabond, c'est celui qui représente un péril pour la communauté et la solidité de la communauté. Et c'était c'est très juste qu'il y avait cette ambivalence. Moi, un des légers reproches que je faisais à Bauman, c'est que il a beaucoup entonné le refrain, je veux dire, du capitalisme, du consumérisme, et il n'a pas assez insisté, à mon avis, sur les éléments technologiques qui sont à la base de cette flexibilité, parce que cette liquidité, parce qu'en fait, par exemple, le téléphone portable, l'ordinateur, les tweets, tous ces modes de communication, ça, c'est des changements technologiques qui produisent de la liquidité. Et là, il faut réfléchir.
Tu as une poupée et cette poupée, tu l'aimes.
Oui.
Tu l'aimes, d'accord.
Oui.
Eh oui, tu aimes ta poupée. Mais imagine que je te dise tout d'un coup que cette poupée, c'est la seule poupée avec laquelle tu auras le droit de jouer pour toute ta vie. Qu'est-ce que ça te ferait?
Je serais triste.
Tu serais triste? Évidemment, parce qu'il y a plein d'autres poupées sur tes étagères et qu'en plus, si t'en prends une autre, cette poupée-là, faudra l'oublier. Même si en fait, c'est elle qui a plus envie de jouer avec toi. La poupée et toi, vous êtes dans le mensonge. Il y a d'autres poupées qui vous plaisent et on en fabrique des nouvelles tous les ans. Vous voulez une poupée hôtesse de l'air?
Oui.
Une poupée serveuse de bar légèrement en surpoids?
Oui.
Et une poupée avec qui vous joueriez un soir sans jamais la revoir?
Ben oui.
Voilà, c'est pour ça que maman et moi, on divorce. La monogamie, c'est pas réaliste.
La monogamie, c'est pas réaliste.
Encore.
La monogamie, c'est pas réaliste.
Encore.
Et oui, la monogamie, c'est pas réaliste dans une société liquide. Un extrait de Crazy Amy de Judd Apatow en 2014. Simon Tabé, la vie liquide dont parle abondamment Zygmunt Bauman, c'est un mode d'existence atomisé, insaisissable, avec comme seul horizon de nos vies la logique consumériste bien décrite dans cet extrait de Crazy Amy.
Oui, bien sûr.
C'est consommer encore et encore, toujours plus.
Moi, je parle. Enfin, souvent, je reviens à un terme que Bauman utilise, enfin, une expression que Bauman utilise beaucoup, qu'il a lui-même empruntée au sociologue allemand Ulrich Beck, qui est de dire la vie liquide, c'est en fait assumer au niveau biographique les contradictions du système.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire qu'on est laissé seul aujourd'hui face au contrat. Enfin, le fait de se projeter dans une société où effectivement tout est consommation, où à la fois l'espace, le temps, on est toujours en retard et on doit toujours aller de l'avant pour rattraper, disons, le système de consommation généralisé, et que du coup c'est à nous-mêmes de nous trouver. On insistait tout à l'heure sur l'insécurité, la précarité. Aujourd'hui, quand on est en situation d'insécurité ou de précarité, on ne va pas se référer à une puissance collective, à un État, à la société. Non, on va s'acheter une alarme, on va prendre une plus grosse voiture, on va s'extraire du monde. Et tout ces, il a des pages magnifiques sur les gated communities, qui sont ces communautés fermées avec garde à l'entrée, qui on est peut-être un petit peu épargné par ça en France, mais qui gagne du terrain partout dans le monde et notamment dans l'hémisphère sud, voilà. Et donc il y a beaucoup de ces systèmes de enfin en tout cas on est amené à se regarder soi-même pour résoudre tous ces problèmes que la société. Et il avait un autre mot qui est de dire les problèmes sont construits de manière globale et les seuls moyens de résolution de ces problèmes sont locaux. De la même manière pour les États ou pour nous-mêmes.
Yves Michaud, Zygmunt Bauman parlait d'expansion des modèles de consommation à tous les aspects et à toutes les activités de la vie.
Oui, mais mais en même temps, ce qu'on constate actuellement, c'est que les choses sont en train de basculer. Justement, l'aspect de rechercher des identités, que ce soit rechercher des identités religieuses, rechercher des identités identitaires, hein, nationales, on voit bien que c'est des réactions à cette situation d'omniconsommation globalisée, hein, aussi. Alors, je ne sais pas comment... j'ai pas lu ces toutes dernières productions. Hein, je veux dire, j'ai dû m'arrêter vers 2012 à peu près. Je ne sais pas comment il réagissait justement au basculement actuel. Moi, je sais qu'il était très critique de la reconstruction des identités, mais en même temps, il était très critique de cette dissolution, en quelque sorte, de toutes les identités et l'atomisation, en fait. On était assez proches, d'ailleurs, sur un point, parce qu'il s'intéressait peu à l'art, et il avait beaucoup apprécié mon livre sur l'art à l'état gazeux. Moi, j'avais parlé de gazeux, alors que lui parlait de liquide. Et effectivement, c'était la même chose. C'était dans le domaine de l'art, de la production, de la culture. On est dans le gazeux, et c'est dans le liquide aussi, c'est la même chose.
Allez, nous attendons vos questions sur la société liquide, marquée par une grande précarité des liens sociaux et intimes, au 01 45 24 7000, par courriel grandbienvousfasse @radiofrance.com et sur notre page Facebook.
Tu me dis, il faut être raisonnable. Le temps recouvre nous, c'est du sable. Quand je recherche trop le drame, tu te dis les charbons et les braises. Oh mon Dieu, comme tout ça me pèse. Toi qui voulais une vie de confort. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Mon amour serait-il trop fort? Toi paisible qui se tient près du bord, moi qui marche tout en dé. Cherche ta cage pour être libre. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Tu m'aimes? Être raisonnable, le temps recouvre nous, c'est du sable. Quand mes sentiments font une cascade, tu me dis faut être plus aimable.
Le retour de Gilles Kaplan, Est-ce que tu m'aimes ?
Ali Rebbi, grand bien vous fasse, sur France Inter.
10h38 et ce matin on se demande ce qu'est une société liquide marquée par la grande précarité des liens sociaux et intimes avec les philosophes Yves Michaud et Martin Legros et avec le sociologue Simon Tabet. Yves Michaud, dans une société des liens précaires, l'identité devient éphémère, volatile, fluctuante à la manière d'un profil Facebook.
Alors soit les gens n'ont plus d'identité et ne savent plus qui ils sont, soit ils le construisent et reconstruisent régulièrement à travers leurs avatars, à travers leur profil Facebook, à travers, dont ils peuvent changer, ils peuvent même en avoir plusieurs, à travers la présentation qu'ils font de soi sur Instagram ou sur Twitter. Donc vous avez, et puis il y a aussi une troisième cas de figure, c'est ceux qui veulent redurcir à tout prix l'identité, donc reconstruire des identités. Moi je suis assez critique, si vous voulez, de ces constructions hystériques de l'identité, que ce soit nationale ou religieuse, tout ce qui est la pensée identitaire.
À ce propos, est-ce que vous pensez que l'élection de Donald Trump est le fruit de cette angoisse généralisée ?
Ah ben, je crois qu'on est actuellement. C'est pour ça que j'aurais aimé en discuter avec Bauman dans les deux dernières années. Je veux dire, c'est-à-dire que je crois qu'aujourd'hui on est à un moment de basculement. Hein, c'est-à-dire qu'il y a un retour, il y a une anti-liquidité. Hein, je veux dire, le programme de Trump, comme celui de Montebourg, hein, c'est le programme anti-mondialisation, retour à des frontières de production, retour au travail, retour. Donc là, on est à un moment où il y a une réaction. Mais vous avez la même réaction aussi du côté des recherches identitaire religieuse. Quand vous avez un musulman, comme ça m'est arrivé, c'était un appendice de Contre la bienveillance, qui vous dit, moi, je suis musulman parce que je me pose plus de questions, j'ai des règles pour tout, je sais comment me conduire dans tous les cas de figure, bah, ça c'est du solide, c'est plus du liquide, c'est des réactions liquides, vous voyez.
Alors Yves Michaud, l'individu c'est l'alpha et l'oméga de la société liquide. Dans votre ouvrage Narcisse et ses avatars, vous vous intéressez au zapping, et le zapping est devenu l'un de nos modes de relation aux choses et aux personnes, ce zapping qui raconte notamment la tyrannie du choix. Choix des produits de consommation, choix parmi les torrents d'informations, choix parmi les divertissements, choix parmi les personnes, choix entre les occupations sur ordinateur.
Il y a une telle offre que d'une certaine manière, on ne sait plus où fixer l'attention. Alors là encore, on est, comme disait tout à l'heure Martin Legros, on est dans l'ambivalence, parce qu'il faut voir que la profusion d'offres et, l'attention floue qu'on peut porter à tout ça est enrichissante, et en même temps, on voit très bien que la capacité d'attention, la capacité de réflexion, la capacité de se situer, de prendre conscience de où on est, en quelque sorte, a complètement diminué. Quand vous faites des interventions avec des collégiens, comme je le fais, quand arriver à les faire se concentrer plus de 20 minutes, c'est très difficile. Mais on y arrive hein, quand même. Simplement, il faut désapprendre le zapping, en quelque sorte. Il faut prévenir qu'ils vont avoir à faire attention pendant un certain temps.
Simon Tabé.
Oui, non, je voulais revenir sur Trump parce que un des sites sur lesquels Bauman écrivait beaucoup s'appelle Social Europe, et son dernier article de décembre 2016 était intitulé justement comment le néolibéralisme a favorisé l'élection de Trump. Et en fait, il revenait sur à la fois l'anxiété économique et l'anxiété de la migration, donc le néolibéralisme et la mondialisation qui vont de pair selon Bauman, et comment finalement la nouvelle classe politique de Orban à Trump aujourd'hui surfent sur ces vagues d'anxiété des populations et donc se font élire sur ce genre de programme.
Et ce qui n'est pas très rassurant, c'est de devoir s'assurer un minimum de sécurité de façon individuelle.
dans cette société liquide.
C'est ça, c'est ça. Alors, on l'a dit, donc l'individualisation des moyens de sécurité et de sécurisation, mais aussi, du coup, de plus en plus de populisme, en fait. Et sa dernière période très récente était consacrée à critiquer cette montée du populisme en regard de tout ce jeu mondial de flux. C'est la question des migrants qui était devenue très prégnante pour lui.
Pour Zygmunt Bauman.
Martin, oui, encore une fois, je trouve qu'il avait saisi quelque chose dans la demande par rapport à votre question sur Trump. Il disait aujourd'hui le rapport des individus à l'état social du fait même de cet état de précarité généralisée n'est plus une demande de redistribution nécessairement, mais c'est une demande de protection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'individu ne se rapporte pas dans un état idéal de redistribution, on va répartir à tout le monde de manière équitable. Chacun a besoin d'être protégé collectivement dans une situation de précarité. Donc je ne crois pas qu'il aurait dit que chacun se débrouille par lui-même. Au contraire, il aurait appelé à produire une réponse en termes de protection, pas uniquement protection économique, protection psychique du fait de ce trouble même.
Oui, mais alors là, ça veut dire, c'est là-dessus que je veux intervenir, ça veut dire que dans l'ambivalence de la situation, il y a aussi la possibilité de reconstruire des relations de sociabilité, que ce soit des relations de sociabilité. Alors, on peut le dire qu'elles sont fausses, je veux dire, des amis Facebook, est-ce que ce sont des amis? Oui, non, mais en même temps, c'est-à-dire, on peut aussi, à travers une certaine pratique, je dirais apaisée de Facebook, on peut reconstruire de la sociabilité. Aujourd'hui, vous avez plein d'initiatives aussi de construction de petits clubs de gens. Vous avez plein de cafés. Regardez Colonie de Kader Attia, rue Lafayette en haut, qui est à la fois bistrot, lieu de parole, lieu d'exposition artistique. C'est de la construction de sociabilité. Il y a tout un travail souterrain dans nos sociétés de reconstruction de sociabilité. Puis en même temps, vous avez tout un travail de retour aux identités. Je crois que ça, c'est l'ambiguïté de la demande de populisme, si vous voulez. D'un côté, vous pouvez passer par des demandes de populistes rétrogrades et réactionnaires qui deviennent hystériques. Et puis, d'un autre côté, vous pouvez essayer de reconstruire de la sociabilité. Et tout ça est très ambigu, je veux dire, très ambivalent. C'est-à-dire que ça peut basculer, y compris quand vous reconstruisez la sociabilité, ça peut devenir très vite du business. C'est la base de tout ce qu'on appelle les réseaux sociaux.
Élodie nous écrit par courriel un exemple de vie liquide, et je pense la capacité à adapter ses amitiés en fonction de la situation de la personne. Exemple, je suis en couple, je fréquente des gens en couple, je me sépare, je fréquente des gens qui se séparent, et bien souvent, je garde très peu des gens de ma vie précédente. Les amitiés d'enfance sont de moins en moins présentes dans ma vie. Martin Legros.
Je crois que c'est très juste, ça dit de manière très concrète qu'est-ce que c'est que la liquidité. Mais moi, je ne serais pas uniquement d'un point de vue de survol en disant, voilà, nous sommes en train de perdre. Il me semble que cette fragilité des liens amicaux, des liens... Aujourd'hui, l'amitié et l'amour, c'est une durée conquise. C'est-à-dire que les individus, il dépend des individus de faire vivre cette durée. Mais ils peuvent aussi, et c'est leur liberté, basculer dans une forme de fugacité des choses. Et la fugacité, Bauman lui-même, dans ses essais, déambulait, flânait de la littérature à la sociologie. Il déambulait, il pensait en déambulant. Eh bien, cette condition qui est la nôtre, elle n'est pas uniquement une catastrophe, elle est aussi une possibilité nouvelle. Et donc ces amitiés fragiles ont quelque chose de précieux aussi. C'est-à-dire que l'individu aujourd'hui, c'est aussi un individu qui noue des relations précaires.
11 célibataires coupés du monde.
Philippe.
Laure.
Aziz.
Loana.
Jean-Édouard.
Julie.
Sylvie.
Kimi.
Fabrice.
Kenza.
Et Christophe.
Filmé dans un loft de 225 mètres carrés, 24 heures sur 24, par 26 caméras et 50 micros. Dans 9 semaines, ils ne seront plus que deux. Qui sera le couple idéal? C'est vous qui décidez.
Le générique de l'émission Love Story, Big Brother dans les pays anglo-saxons. Simon Tabet, Zygmunt Bauman s'est intéressé à tout un tas de phénomènes, de la télé-réalité, en passant par le shopping, en passant par le speed dating. Des phénomènes qui en disent long sur sur nos sociétés liquides.
Ouais, bien sûr. Bauman, il a eu une bibliographie conséquente. Il a écrit énormément de livres et il a finalement décliné ce concept sur beaucoup de pans de la vie aujourd'hui. Et je pense qu'il faut revenir sur cet aspect qui est vraiment central chez Bauman, c'est sa fluidité dans l'écriture. Et il le fait vraiment à dessein. C'est-à-dire que, disons, dans les années, au début des années 90, quand il prend sa retraite à Leeds, il décide de ne plus s'adresser à ses collègues, mais écrire ce qu'il appelle des conversations avec le savoir commun. Et ça, c'est très intéressant. Et son dernier livre paru en français, sur les riches, les riches font-ils le bonheur de tous, je crois, concentre ça. C'est-à-dire que il a, disons, 90 pages, donc un petit livre, un petit volume, avec une écriture assez simple pour démystifier et déconstruire le mythe de ce qu'on appelle la théorie ruisselante, c'est-à-dire que la richesse de certains ferait le bonheur de tous. Voilà, c'est un peu à ça qu'il s'est attelé ces derniers temps, c'est à pointer quelques phénomènes sociaux et à les déconstruire et à en exprimer les ressorts. C'est très intéressant.
Avec une vraie ouverture d'esprit, parce qu'il me venait, en vous entendant, il me venait à l'esprit la comparaison avec Baudrillard, qui lui aussi s'intéressait énormément à tout le contemporain, mais qui a voulu à tout prix le lire à travers une grille assez simple, c'est toutes les simulations, hein, toutes les constructions, toutes les télévisions, en quelque sorte. Et du coup, on s'aperçoit que l'ouverture d'esprit de Bauman est nettement plus intéressante du point de vue de la description que Baudrillard.
Alors ce qui frappe dans l'œuvre de Zygmunt Bauman, c'est la jetabilité des choses, des individus, des activités, des sentiments, des êtres humains, comme le rappelle très bien Roger Poldroit dans sa nécrologie de Zygmunt Bauman dans Le Monde. Ce que nous dit au fond Zygmunt Bauman, c'est que chacun peut être mis au rebut, jeté aux ordures d'un instant à l'autre, au travail, dans les relations amicales, amoureuses, sexuelles. Martin Legros.
Oui, la liquidité a une dimension à la fois, je dirais, physique, économique et psychique. Physique, c'est-à-dire les liquides, c'est un état, c'est comme le gaz. Et le gaz peut précipiter en liquide ou le liquide peut solidifier. Et ça dépend de la manière dont les atomes se comportent. Ils vont se solidifier, se fixer, ou bien ils vont rester dans un état d'instabilité gazeux, comme les expériences artistiques dont parle Yves Michaud, ou bien ils vont se couler dans une forme liquide. Et donc c'est cet état physique. Et puis c'est aussi un état économique, on en a parlé, oui. Et dernièrement un état psychique, et c'est-à-dire c'est ce moment où nous sommes, nos vies sont dans des états d'instabilité permanente. Et juste une dernière chose, Bauman, on l'avait interrogé, nous, dans Philosophie Magazine, en lui demandant quand est-ce qu'il avait découvert le concept de liquidité, et il disait tout était devenu en écoutant une suite de violoncelle de Bach par Yo-Yo Ma. Et il y a quelque chose de nos vies qui a quelque chose de musical. La musique, elle cherche, nous ne connaissons pas la fin, nous ne connaissons pas la mélodie, mais il y a quelque chose comme une discordance concordante qui se forme quand on écoute une mélodie. Eh bien, nos vies à l'état gazeux, c'est peut-être une mélodie.
Georgios nous dit, je vous écoute depuis tout à l'heure, et j'ai l'impression que cette société liquide n'est présentée que d'un mauvais œil, mais n'est-elle pas une forme de liberté par le choix, vraie ou fausse liberté ?
Yves Michaud. Ça, c'était un des thèmes favoris de toute la vie de Bauman. C'était l'antinomie, justement, entre la liberté et puis l'ordre. Entre la sécurité que vous donnent les institutions solides et puis cette liberté que vous donne la société liquide. Il disait d'ailleurs une chose, il le faisait remonter même à Kant, en disant lorsque Kant nous dit que l'individu est en charge de se construire, il inaugure aussi bien l'ère de la liberté que l'ère des totalitarismes.
Comment retrouver un peu de solidité dans nos vies liquides? Simon
c'est
Tabé.
Une vaste question.
Ce sera l'objet d'une nouvelle émission. Alors.
Exactement, exactement. Non, juste pour revenir sur ce que vous disiez, c'est Bauman. Effectivement, on présente la société liquide et lui-même le fait d'un mauvais œil. Mais il faut voir que Bauman n'a absolument aucune envie de revenir en arrière. C'est quelqu'un qui a énormément souffert du totalitarisme. C'est quelqu'un qui s'est construit avec l'antitotalitarisme viscéral. Donc aujourd'hui, s'il est si critique, c'est pour critiquer les dérives de la postmodernité et finalement les dérives du néolibéralisme. Voilà, c'est ça son but aujourd'hui.
Et puis nous aurait sans doute dit des choses passionnantes sur l'obsolescence programmée, hein, Yves Michaud.
Ah bah bien sûr, parce que l'obsolescence programmée, c'est l'union de la liquidité et de la technologie, quoi.
Merci à tous d'être venus. Merci Yves Michaud, je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Citoyenneté et loyauté chez Kairos. Merci Simon Tabé, votre ouvrage consacré à Zygmunt Bauman est publié chez L'Harmattan. Merci Martin Legros, journaliste à Philosophie Magazine, à la une du nouveau numéro. De quoi la gauche
est-elle malade?
Vaste programme. À suivre l'intervention de Sabrina Nadjar de Femme Actuelle consacrée aux facteurs à tout faire.
À lire EBI sur France Inter.
Stand on the World. Rebonjour Sabrina Nadjar.
Rebonjour
Ali. Alors avant que nous écoutions votre intervention, j'aimerais quand même citer un livre de Zygmunt Bauman à lire et disponible en poche. Ça s'appelle La vie liquide. C'est un livre très accessible et très clair que vous aviez édité, je crois, Yves Michaud.
Oui,
c'était vous. Hein. Alors Sabrina Nadjar, à nous deux, cette semaine, vous vous intéressez aux facteurs à tout faire. La Poste se réinvente face à la baisse du volume de courrier avec un mot d'ordre, proximité.
Exactement, parce qu'il faut savoir que chaque année, le volume de courrier ne cesse de reculer de 6 à 7%. Et donc, il était vraiment urgent pour La Poste de se diversifier pour assurer un avenir aux 85 000 facteurs français. Donc, qu'est-ce que fait La Poste aujourd'hui? Elle mise sur de nouveaux services de proximité. En tout, une quinzaine de missions payantes sont ainsi proposées aux collectivités, aux entreprises et aux particuliers. Par exemple, se rendre au domicile de personnes âgées isolées à la demande des familles. Alors, ce service baptisé « Veiller sur mes parents » est une prestation facturée 5 euros et elle vise à s'assurer que la personne se porte bien grâce à quelques minutes d'échange. Alors, ne croyez pas que nos facteurs sont transformés en infirmiers, mais en visiteurs attentifs, capables de détecter un éventuel problème. Autre possibilité pour nos facteurs, certaines communes font appel à eux pour surveiller l'état de la voirie. Équipés d'un smartphone, ils traquent la moindre dégradation,
rayon, une poubelle qui déborde, des trous dans la chaussée, et en informe la mairie, ce qui leur permet du coup de réagir très vite et d'éviter qu'un problème s'aggrave. Certains facteurs se sont même reconvertis en examinateurs du code de la route ou en spécialistes du diagnostic de rénovation énergétique.
Alors Sabrina Nadjar, est-ce que cette multiplication des missions brouille l'image de la Poste? Et que disent les syndicats à ce propos?
Eh bien, les syndicats évidemment s'interrogent sur la redéfinition du métier de facteur. Est-ce que tous les facteurs se sentent capables d'aller poser des questions personnelles aux gens ou de leur vendre un diagnostic énergétique? Il faut savoir qu'au démarrage, c'est tout de même pas leur métier.
Et Yves Michaud, vous avez travaillé un petit peu avec la Poste en tant que philosophe. Votre regard sur ces facteurs à tout faire?
Eh bien, je dirais que la première chose, il faudrait d'abord qu'on arrive à le voir, le facteur ou ce qu'on appelle le préposé, parce que mon expérience de citadin, c'est que on le voit pas vraiment. Deuxièmement, je dirais que de manière moins anecdotique, cette question, c'est typiquement le conflit entre la modernisation de la logistique à tous égards et puis son ouverture à la concurrence aussi, et puis la relation humaine. Hein. On voit très bien que les facteurs aujourd'hui sont absolument coincés entre une tâche qui était quand même une tâche en partie de relation humaine et puis les nécessités des distributions de courriers, des codes-barres, de tout ça. Ensuite, la troisième remarque, qui serait peut-être plus critique, c'est que je rappelle que c'est Michel Rocard qui, en 1991, a fait procéder au changement de statut de la Poste et qu'on en est toujours à essayer de la réformer parce que la question est tellement politiquement sensible qu'on multiplie les plans et souvent un peu, je dirais, les gadgets.
Yves Michaud, vous êtes vraiment un homme très éclectique. Merci beaucoup Sabrina Nadjar. Ce papier dans Femme Actuelle est à lire. Cette semaine, à la technique ce matin, il y avait Anne-Laure Cochet et Florent Beauvallet. La programmation musicale était signée Muriel Pérez. Demain, on s'intéresse au burn-out parental, un ras-le-bol qui culpabilise des parents fatigués, débordés. Nous essaierons de vous donner quelques pistes pour sortir de cet épuisement qui consume de l'intérieur. Vous pouvez témoigner par courriel grand bien vous fasse à radiofrance.com.
La vérité, une chose dure, solide, honnête, digne de confiance. De nos jours, nous tous sommes engagés en cette recherche.